Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
On parle des êtres humains, mais aussi des animaux, mais aussi des plantes, parce qu'ils sont dans l'actualité, grâce à vous notamment, Charles Stepanov, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez Attachement. Attachement, c'est une somme, c'est en quelque sorte une sorte de déclaration de foi qui rassemble beaucoup de vos réflexions d'anthropologue, ce que vous avez déjà fait dans des livres précédents, que vous avez consacré aux animaux, à la chasse. Là, il s'agit, dites-vous, en sous-titre, d'une enquête sur nos liens au-delà de l'humain. Et effectivement, s'il fallait résumer ce livre extrêmement important, vous explorez dans cet ouvrage les relations complexes et variées que les hommes entretiennent avec leur environnement naturel, qu'il s'agisse donc des animaux ou bien des plantes, avec énormément d'enquêtes de terrain dans des sociétés non occidentales, des sociétés sibériennes notamment. Et vous essayez d'expliquer comment les dimensions affectives, spirituelles et culturelles que nous nouons avec les animaux, mais aussi donc avec les arbres, ne se limitent pas à ce que les occidentaux ont fait avec la domestication. On écoutait tous les deux la revue de presse internationale de Catherine Dutu, et Donald Trump a donc eu, lors de ce débat avec Kamala Harris, un mot pour accuser les migrants de manger les chats et les chiens. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'anthropologue que vous êtes ?
Mais c'est un bel exemple de la façon dont nos rapports à des êtres non humains, les animaux de compagnie en l'occurrence, peut être un prisme qui permet de créer des identités collectives. En l'occurrence, il s'agit de tracer ce qui définit un nous et ce qui définit les autres. Nous avons un rapport affectif avec les chiens et les chats, et les autres, c'est ceux qui les mangent. Nous les traitons comme des enfants, animal-enfant, et puis il y a une sorte de violation d'un tabou alimentaire quand on traite ces animaux enfants comme des animaux nourriture. Ce sont des catégories qui sont arbitraires, évidemment, dans certaines sociétés. Les Gaulois, par exemple, nos ancêtres les Gaulois, utilisaient les chiens comme un animal de boucherie. Le chien peut tout à fait être une source de nourriture, mais ces frontières entre animal-enfant et animal-matière, source de consommation, peuvent se déplacer. Dans cet ouvrage, j'essaye d'élargir ce questionnement en essayant de voir dans les écologies et les évolutions des organisations sociales, des sociétés humaines, comment les rapports d'attachement et d'exploitation à l'environnement ont pu être déterminants, critiques, en permettant de distinguer des groupes sociaux.
Justement, Charles Stepanov, qu'est-ce qu'un anthropologue ? En quoi ça se distingue, je ne sais pas, d'un sociologue, par exemple ?
Alors l'anthropologie, elle est fondée sur l'enquête de terrain, l'enquête ethnographique, on appelle ça. C'est une recherche empirique qui consiste à aller étudier la diversité des cultures, des modes de vie, des modes de subsistance des sociétés humaines et en tirer des généralités. Par la comparaison entre ces différentes enquêtes de terrain, ça permet de déconstruire des universels qui nous semblent, par la philosophie, être universel et qui, en fait, on voit, sont des constructions qui peuvent être récentes des sociétés occidentales modernes. Ça permet aussi de dégager des invariants qui, au contraire, sont fondés empiriquement, qui concernent la parenté, les relations des humains entre eux à travers la consanguinité, l'alliance, mais aussi, de plus en plus, on s'intéresse aux façons dont les sociétés humaines se rapportent à leurs environnements.
S'il fallait là aussi présenter l'une des spécificités de votre travail, eh bien vous représentez une génération d'anthropologues qui, à la suite de Philippe Descola, qui est probablement l'anthropologue qui vous a le plus influencé, eh bien vous essayez de remettre en cause un partage qui est un partage évident pour nous occidentaux entre la nature et la culture, et vous dites, vous avez montré que ces choses-là sont plus compliquées que cela.
C'est ça, c'est ce qui a été montré par Philippe Descola, d'autres anthropologues qui faisaient des enquêtes de terrain en Amazonie ou en Amérique du Nord, en Asie du Sud-Est également, qui sont intéressés à des sociétés animistes dans lesquelles les rapports aux êtres non humains sont organisés de façon tout à fait différente de nos conceptions naturalistes modernes. Donc on a remis en cause l'idée d'une opposition frontale entre nature et culture. Moi, j'essaye d'en tirer les conséquences dans la compréhension des évolutions sur la longue durée des rapports entre société et environnement, en me basant aussi sur l'anthropologie évolutionnaire, sur l'écologie humaine, et qui nous apporte des modèles beaucoup plus riches et complexes, qui nous montrent que les humains ne sont pas nécessairement une perturbation, une nuisance pour la nature qui serait vierge, mais au contraire, une belle étude l'a montré récemment, depuis 12 000 ans, les sociétés humaines ont modelé les surfaces terrestres, les écosystèmes terrestres à 75%. Ça signifie que l'idée même de nature vierge n'a plus vraiment de sens, que les humains peuvent avoir un rôle de régulateur dans les écosystèmes. Ils contribuent à la résilience des écosystèmes. Ça a été montré en Australie, par exemple. Les aborigènes, quand ils se retirent d'un écosystème, eh bien cet écosystème perd en résilience parce qu'ils avaient une fonction de clé de voûte dans les réseaux écologiques de cet écosystème.
Mais alors, justement, si vous deviez me donner un exemple de cette répartition, de cette distinction fausse entre nature et culture, ce qu'on évoquait par exemple les animaux domestiques, les chats, les chiens, est-ce qu'ils se situent du côté de la culture ou bien au contraire du côté de la nature? Que diriez-vous, Charles Stepanov?
Alors, sur les chats et les chiens, c'est très intéressant parce que c'est le modèle même de l'animal domestique. Le chien, parce que c'est le premier animal domestiqué dans l'histoire de l'humanité, déjà au paléolithique supérieur. Et classiquement, ces animaux ont été conçus, disons, à partir des Lumières, à partir de Buffon, comme des œuvres de l'homme. Donc il y aurait d'un côté des animaux qui sont des œuvres de la nature, qui sont les animaux sauvages, et de l'autre, des animaux et des plantes également, Buffon donne l'exemple du blé, qui sont des artefacts, qui sont le produit de l'art, de la création, de l'intelligence humaine. Et donc, les animaux domestiques sont conçus comme des objets pensés, créés, modifiés par l'homme, des esclaves de la matière modelée par l'homme, selon Buffon. Or, les recherches des généticiens, les recherches des archéozoologues nous montrent qu'on a des processus beaucoup plus complexes qui sont largement non maîtrisés par l'humain. Qu'en fait, il y a des processus de sélection naturelle à l'intérieur même des processus de domestication. Donc, ce qu'on croyait être un artefact maîtrisé et contrôlé par la volonté humaine, en fait, il y a une part de volonté humaine, mais à petite échelle, puisqu'il s'agit de toute façon de phénomènes extrêmement longs, qui dure des siècles, des millénaires, 40 générations. Aucun humain, dans ces longs processus, n'avait pu prévoir quelle serait finalement l'issue du processus de domestication. Aucun humain ne pouvait imaginer ce que serait le chien en entrant en contact, en adoptant les premiers loups qui ont vécu sur les campements des chasseurs-cueilleurs du Paléolithique. Donc ce que ça signifie, c'est que l'opposition entre des espèces purement naturelles et des espèces artificialisées soumises à notre domination, à savoir les espèces domestiques, eh bien ce grand contraste-là, il est remis en cause. On a des échanges, on a des hybridations. Il y a des cochons qui s'hybrident avec des sangliers. C'est même pas une hybridation puisque c'est la même espèce. J'ai travaillé en Sibérie chez des éleveurs de rennes, chez lesquels le renne domestique s'accouple très régulièrement avec le renne sauvage. Et en fait, des exemples de ce type fourmillent dans le présent. Et les généticiens nous montrent que ils étaient également très nombreux dans le passé, pour le cheval par exemple, avec des introgressions génétiques entre cheval domestique et cheval sauvage. C'est finalement dans les périodes assez récentes, très récentes, prenons l'exemple du chat, c'est très récemment que les humains se sont mis à contrôler la reproduction des chats en les castrant en masse, mais sinon les chats de gouttière, pendant des millénaires en fait, on ne contrôlait pas la reproduction des chats. Donc dire si le chat est un animal sauvage ou domestique, pour les spécialistes, c'est assez ambigu, c'est assez délicat, jusqu'à une période très récente.
Toujours dans l'actualité des sociétés humaines, notamment de la société française, il y a l'ouverture de la chasse. Vous avez travaillé sur la chasse, Charles Stepanov. Vous dites dans votre dernier livre, Attachement, publié aux éditions de La Découverte, que nous sommes des prédateurs empathiques. Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, c'est l'idée que incontestablement, les humains sont les plus gros prédateurs de la planète, en quantité. On prélève énormément des ressources terrestres, mais aussi et surtout en fait maritimes par la pêche. On prélève pas uniquement pour la chasse, pour l'adoption d'animaux de compagnie. Les perroquets, des petits singes font l'objet de déprédations absolument terribles, mais pas pour être mangés, mais pour servir d'animaux de compagnie dans les maisons, dans les appartements. Et ça, c'est ambigu parce que donc on est le plus gros prédateur, mais on a aussi des capacités d'attachement extrêmement fortes. On fait de la prédation pour s'attacher, en plus de se nourrir. Donc il y a une ambiguïté intrinsèque dans notre rapport à nos environnements par cette tendance à l'exploitation extrêmement forte, inégalée, et cette capacité à créer des liens, à adopter, à apprivoiser des animaux, à créer des liens de filiation avec des petits animaux traités comme des enfants, comme on l'évoquait tout à l'heure avec nos chiens et nos chats. Parce que la prédation humaine, l'exploitation humaine, elle n'est pas basée, comme chez les autres prédateurs, sur des capacités physiques extrêmement développées. On n'a pas des grosses canines, on n'a pas des grosses griffes, on ne court pas très très vite, on a un sens olfactif très sous-développé par rapport aux chiens, par rapport aux lions, par rapport aux chats. Donc nous sommes des prédateurs de dernier ordre sur le plan de l'équipement physique. Mais ce qui nous sauve, c'est l'imagination. C'est la capacité à imaginer des ruses, à nous mettre à la place des animaux, à créer des pièges, des trappes pour les attirer, à les adopter et les élever également pour avoir de la viande sur pied à disposition. Tout ça, c'est basé sur une capacité à se projeter dans le monde des animaux, à se mettre à leur place, à modifier l'environnement pour qu'ils répondent à leurs besoins et éviter de leur faire peur. Donc ça, c'est une mobilisation de l'imagination et d'une empathie. Donc c'est ce que je résume dans l'expression « nous sommes des prédateurs empathiques ».
Alors, est-ce que ça veut dire que dans le règne animal, les êtres humains ont au moins une spécificité, c'est la dualité de ce rapport qu'ils entretiennent avec les autres espèces ?
Voilà, c'est une forme d'exception humaine. Il y a de l'exception humaine, mais elle n'est pas forcément dans ce qu'on croyait. Elle peut être située dans l'extraordinaire ouverture et richesse de notre capacité d'attachement au-delà de l'humain. Donc ça crée une dualité, parce que nous exploitons à outrance nos environnements, nous les modifions, mais même les chasseurs-cueilleurs modifient énormément leurs environnements par des incendies par lesquels ils modèlent les paysages en maintenant des paysages ouverts et attractifs pour le gibier. Et puis nous adoptons, comme aucune autre espèce ne le fait, d'autres espèces, des animaux. Donc nous, on connaît bien les chats et les chiens qui sont familiers dans nos appartements, dans nos maisons, mais ce n'est pas une spécificité occidentale. Chez les aborigènes d'Australie, on voit dans les familles, sur les campements, des petits kangourous, des marsupiaux, des espèces très nombreuses. Il peut y avoir des insectes.
Ils remplissent les mêmes fonctions ?
Alors pas forcément les mêmes, ça peut aller beaucoup plus loin en fait chez les chasseurs-cueilleurs, puisqu'il y a un phénomène très généralisé qui est l'allaitement par les femmes de certains animaux. C'est l'ourson, par exemple, à travers l'Asie du Nord, les pécaris, tous les petits mammifères, en fait, peuvent être tout à fait traités comme des enfants et être allaités. Et ça, c'est un phénomène complètement exceptionnel, parce que ça permet de créer des liens extrêmement forts.
Mais alors, des liens, ou est-ce que ça veut dire que la coupure sur le plan de l'imaginaire entre l'humain et le non-humain est différente, par exemple ? Si l'on considère que, puisqu'en anthropologie c'est un modèle classique, que certains animaux ne sont pas des animaux. Quand par exemple chez les nuées on considère que les oiseaux sont des jumeaux, ou ce type de caractéristiques.
Ça veut dire que les animaux peuvent être regardés de différentes manières à la fois. Dans une même société, il n'y a jamais un rapport simple. C'est justement parce que nous sommes des prédateurs empathiques que d'un côté, dans toutes les sociétés, on va traiter les animaux comme une source de nourriture, comme de la viande, ou du gras, ou une source de cuir, où les ossements peuvent être utilisés pour créer des outils, donc un rapport matériel. Et d'un autre côté, on peut les regarder comme des enfants, comme des compagnons, comme des réincarnations d'ancêtres. Donc,
Mais lorsqu'on les considère comme des réincarnations d'espèces, ça veut dire qu'ils d'ancêtres, ça veut dire qu'ils sont très proches de nous.
Tout à fait. Voilà, il y a une distance, une mise à distance dans la consommation, avec des processus de transformation de cet alter ego en nourriture, par des rituels, par la cuisson. Le feu joue un rôle très important pour transformer la chair de ses alter ego en nourriture.
Charles Stepanov, vous êtes anthropologue, vous publiez « Attachement, enquête sur nos liens au-delà de l'humain » aux éditions de La Découverte. On va se retrouver dans une vingtaine de minutes. Vous incarnez cette génération nouvelle d'intellectuels qui pensent différemment l'écologie à l'heure de l'anthropocène, puisqu'on en parle souvent, peut-être pas assez souvent, peut-être d'ailleurs qu'en ce moment, la politique française en ce moment traverse une sorte de trou d'air par rapport à cela. Vous nous direz d'ailleurs comment l'intellectuel que vous êtes observe la façon dont les politiques parlent ou ne parlent pas de l'écologie. 8 heures sur France Culture.
Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Nous retrouvons notre invité, l'anthropologue Charles Stepanov. Vous publiez une somme qui est en quelque sorte le résumé des différents travaux que vous avez menés jusqu'ici. Attachement, c'est au pluriel, enquête sur nos liens au-delà de l'humain aux éditions La Découverte. Vous nous avez expliqué dans quelle mesure la distinction entre nature et culture vous paraissait largement erronée, dans quelle mesure il y a des liens dynamiques que les hommes entretiennent avec les animaux, avec les plantes, comment ceci finalement constitue un monde complexe en fonction des sociétés, puisque vous avez longuement étudié des sociétés non occidentales et des sociétés occidentales, puisque vous avez notamment travaillé sur la chasse. J'avais envie aussi de vous entendre parler politique, précisément parce que les politiques ont déserté depuis quelques semaines, pour différentes raisons, l'écologie, et vous incarnez fort bien cette génération de nouveaux penseurs de l'économie, qu'est-ce que ça suscite en vous, Charles Stepanov ?
En fait, c'est une tendance de très longue durée. C'est pas juste ces dernières semaines, mais c'est ces derniers millénaires que l'on voit les sociétés humaines qui sont gouvernées par des États, pas toutes les sociétés humaines, mais celles qui se sont soumises progressivement à des pouvoirs politiques contrôlés par une élite humaine. Eh bien, elles ont recentré leurs intérêts, leurs passions, leurs débats sur elles-mêmes, sur les relations avec les humains. La question, c'est de savoir comment est-ce qu'on en est venu à croire qu'il est plus que les ministres, les lois, les gouvernements sont plus importants pour nous que l'air, le ciel, l'eau. Or, les leçons de ces dernières semaines, c'est quand même que, en écoutant l'actualité, on voit que nous sommes capables de vivre sans gouvernement pendant assez longtemps, sans premier ministre, sans ministre. Par contre, vivre sans eau, sans air, on ne va pas tenir plus de 5 minutes. En tout cas, on ne va pas tenir 7 semaines ou encore plus. Donc, et c'est un changement profond qui s'est fait dans la durée, puisque beaucoup d'autres sociétés humaines considèrent comme fondamentaux leur rapport au ciel, à l'air, à la terre, aux montagnes, aux sources de nourriture, aux conditions d'existence et de reproduction de leur groupe. Donc ce qui m'intéresse dans ce livre, c'est cette émergence d'un pouvoir politique isolé, anthropocentré. Et pour moi, il s'est constitué par une modification des relations d'attachement des humains à leur milieu vivant, par des négociations, par le fait qu'un monopole s'est établi sur les relations aux êtres invisibles, aux puissances qui nous environnent, par certaines élites. Et c'est ainsi qu'ont pu se constituer des élites qui ont monopolisé un pouvoir politique.
Je me suis dit que j'allais vous embêter quand même sur le fait de savoir, Charles Stepanov, si vous aviez un message politique à délivrer, si vous considériez votre œuvre comme une œuvre engagée.
Alors, message politique, non, il ne s'agit pas de donner un mode d'emploi aux gens. Il y a suffisamment de gens qui délivrent des modes d'emploi à tout le monde. Le but de la recherche anthropologique, c'est plutôt d'élargir, de nous faire prendre un pas de côté et de regarder qu'est-ce qu'il y a au-delà du politique. Il y a ce qu'on appelle le cosmopolitique. C'est-à-dire des façons de réfléchir au rapport de pouvoir, au rapport de responsabilité, qui ne soient pas centrés uniquement sur les relations entre humains, mais qui vont inclure les relations aux montagnes, aux rivières, aux animaux, à l'environnement, au milieu vivant, sans lequel ces collectifs humains ne peuvent pas survivre. Donc c'est une nécessité. Ce pas de côté nous amène à relativiser ce qui nous semble des évidences, à imaginer d'autres mondes possibles. En fait, l'anthropologie amène à élargir le champ des possibles sur le plan de l'imagination, du savoir. Et ensuite, les gens, de ces possibilités, ils en font ce qu'ils souhaiteront.
Mais alors, justement, parce qu'en écoutant le journal de Margot Delpierre, on a parlé de l'eau puisqu'on a parlé de Nestlé Waters. On a parlé de l'alimentation aussi parce qu'on a parlé du Nutri-Score. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Bah, Nutri-Score, on voit que c'est devenu des enjeux politiques, effectivement. Le choix alimentaire, par exemple, c'est parce qu'on a une forme de délégation, si vous voulez, de différentes compétences, de différents savoirs. Désormais, ce sont des institutions spécialisées, des experts qui doivent nous indiquer qu'est-ce qu'il est bon de manger. Et qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qui en excès sera nuisible pour notre santé. Or, il s'agit de compétences qui, chez l'humain, à la base, sont accessibles à chacun. Dans de très nombreuses sociétés, chacun a des compétences qui permettent de s'approvisionner dans un environnement immédiat. Ce sont des savoirs, ce qu'on appelle des savoirs écologiques, qui concernent, par exemple, en Sardaigne, on a relevé 200 plantes qui sont connues par les gens et utilisées dans l'alimentation traditionnelle. Donc la question, c'est comment ces savoirs qui sont à la source d'une très grande diversité de nutriments ont pu être progressivement perdus et délégués à des experts ou à des productions industrielles alimentaires. Ça a un impact sur la santé de chacun, mais aussi sur notre rapport au monde.
Alors, par exemple, chez les Tojou, d'ailleurs, j'aimerais que vous nous les présentiez. Donc, c'est une tribu de chasseurs-cueilleurs que vous avez étudiée. Qui sont-ils et alors comment envisagent-ils leur alimentation, ces Tojou ?
Alors, les Tojou, c'est un groupe d'éleveurs et chasseurs en Sibérie du Sud, de quelques centaines de personnes, chez qui j'ai passé pas mal de temps lors d'enquêtes de terrain. Donc leur mode de vie est nomade, puisqu'ils vivent avec des rennes qui sont des animaux migrateurs, qui ont besoin de changer de pâturage régulièrement. Donc il y a des dizaines de kilomètres, des centaines quelquefois de parcours, avec établissement de campements d'hiver, d'été, qui varient au fil des saisons et varient d'une année sur l'autre. Ça pour éviter que le troupeau ne détruise le pâturage. Tout ça se reconstitue très lentement. Mais l'essentiel de l'alimentation vient de ressources sauvages. Donc ces animaux, les rennes, ces troupeaux ne sont pas élevés pour fournir la nourriture au quotidien, comme nos vaches par exemple, mais servent plutôt comme animal de transport. L'essentiel de l'alimentation, c'est la pêche, la chasse et la cueillette. Donc il y a une cinquantaine d'espèces animales et végétales qui sont utilisées au quotidien, pour l'alimentation, pour le chauffage, pour l'habillement, et qui sont prélevés dans l'environnement immédiat. Donc tout ça, c'est basé sur des savoirs. Il faut savoir identifier les plantes, il faut savoir comment les utiliser, quelles préparations. C'est ce qu'on appelle des savoirs écologiques, qui font l'objet de transmissions orales, de génération en génération, et qui constituent ce qu'on peut appeler une intelligence écologique. C'est une forme d'intelligence collective qui sert d'interface entre une communauté humaine et son environnement. Ça, c'est absolument clé sur le plan écologique parce que l'humain va avoir un rôle dans les chaînes écologiques locales par ses prélèvements, mais aussi sur le plan politique. C'est là qu'on rejoint le politique parce que cette capacité à s'approvisionner dans son environnement, c'est source d'autonomie alimentaire, économique, mais aussi politique, puisque ça a permis à ces groupes de résister, d'échapper au régime soviétique pendant des décennies.
Alors, est-ce que les Tojou vivent mieux que nous ?
Alors, on ne peut pas juger. Hein, notre rôle d'anthropologue ne va pas être de faire des jugements de valeur.
Ah, par exemple, Lévi-Strauss, dans Triste Tropique, il juge.
Sur certains aspects, on peut dire qu'ils vivent mieux que nous. Sur d'autres aspects, par exemple, si on considère que les savoirs écologiques, c'est quelque chose d'important, là, il y a des mesures statistiques qui montrent que dans les sociétés occidentales modernes, il y a un déclin extrêmement fort, inquiétant même, de ces savoirs, puisque des connaissances sur les arbres les plus communs autour de nous, qui étaient accessibles à tout un chacun, aux enfants même au début du XXe siècle, aujourd'hui, il faut être un expert pour les maîtriser. Et ça, c'est inquiétant parce que c'est une forme de richesse du rapport humain au monde qui est en train de se perdre.
Est-ce qu'ils connaissent les mêmes maladies que nous ? Est-ce qu'ils ont du vague à l'âme, les Tojou ?
Alors, au niveau des sanitaires, il y a des problèmes qui vont être différents des nôtres, mais il y a toutes sortes de maladies de société liées à la sédentarité, troubles cardiovasculaires, obésité, qui frappent les sociétés occidentales modernes, qui, eux, ne les frappent pas, évidemment. Donc, on va voir des gamins et des vieillards extrêmement forts physiquement, que moi, j'ai toujours eu du mal à suivre dans la forêt, parce qu'ils ont une endurance mais stupéfiante.
Mais alors, est-ce qu'ils peuvent être déprimés?
Bien sûr. Alors, les Tojou, comme toutes les populations humaines, connaissent tout le panel des émotions qui sont possibles. Ah,
des émotions, ça j'imagine, mais j'étais dans une perspective rousseauiste, puisqu'on embête toujours les anthropologues en les accusant d'être un peu rousseauistes, pour savoir si un certain nombre de nos mots modernes étaient connus également des Tojou, qui, eux, vivent à la manière des chasseurs-cueilleurs depuis... Donc des siècles.
Alors non, on est ancré dans l'histoire, hein, bien sûr. Il ne s'agit absolument pas de dire que c'est des populations qui sont hors du temps. Au contraire, ils sont peut-être même plus inscrits dans le temps que nous, dans le temps, dans la modernité et sa construction et son effondrement. C'est ce que j'analyse dans le livre avec des chapitres sur la confrontation avec le pouvoir modernisateur de l'URSS. Au cours du XXe siècle, ce pouvoir les a fait passer d'une économie de subsistance, de chasse-cueillette, à une économie qui se voulait à l'avant-garde du monde produisant de la viande, désormais des fourrures, pour alimenter un front de colonisation à travers la Sibérie, avec la communication par radio, avec des hélicoptères, des vétérinaires, des agronomes, pour être à la pointe de l'utilisation la plus rentable et la plus rationnelle de la nature. Tout ça, ils l'ont vécu, ils le connaissent très bien. Ils l'ont vu s'effondrer également. Donc ils sont aussi dans un avant-poste, comme dit Nastassia Martin, à propos d'autres populations du Nord. Voilà, une collègue anthropologue. Ces populations ne sont pas enfermées dans un passé lointain. Elles sont aux avant-postes, puisque ce sont les premiers observateurs des effondrements systémiques, économiques, politiques, en l'occurrence pour l'URSS, mais aussi climatiques et écologiques, puisque les zones arctiques et boréales sont les plus impactées par ce réchauffement climatique. Donc ces crises que nous entrevoyons, ils les vivent et ils en subissent de plein fouet.
Alors justement, où en est le politique chez eux? Alors le politique, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire leur manière de négocier avec la société environnante, donc hier avec l'Union soviétique, aujourd'hui avec la Russie. Et puis ce groupe a-t-il son propre pouvoir politique, ou bien sont-ce des sociétés qui ignore le politique ou le contourne? Là aussi, en anthropologie, il y a de nombreuses thèses. Pierre Clastres a eu un rôle pour dire qu'une société pouvait vivre non pas sans la politique, mais contre la politique. Qu'en est-il chez eux?
Alors, comme je vous disais, ils ont vu la politisation de leur mode de vie imposée par des gouvernants, par des modernisateurs à l'époque soviétique, où chacun de leurs gestes a revêtu un sens politique, puisqu'il s'agissait de construire une société nouvelle. Donc il ne s'agissait plus d'interagir avec les esprits des montagnes ou avec les esprits des rennes, mais il s'agissait d'utiliser les montagnes, d'utiliser les rennes, de les rentabiliser pour servir un but qui était politique, qui était la construction d'une société communiste. Et ce qui les a sauvés, c'est d'essayer de contourner, de se mettre à l'écart de cette imposition du politique, de refuser finalement le politique pour maintenir des rapports qu'on appelle en anthropologie cosmopolitiques. C'est-à-dire qu'ils ne soient pas centrés sur les relations qu'on peut avoir avec le syndicat, avec le parti, avec l'État, avec la commune, mais qui inclut des relations riches, complexes et denses avec des esprits, en l'occurrence, qui représentent la gentilité des montagnes, des rivières, des animaux. La puissance capacité d'agir, la capacité d'être un sujet, d'entrer dans une interaction avec ces différents êtres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire?
Donc, c'est une notion assez importante, parce que ça veut dire que chez les Tojou, il y a une possibilité pour les montagnes d'agir.
C'est ça. Le rapport aux montagnes est très différent de, du nôtre, puisque face à la montagne, nous, ce qu'on a comme rapport, ça va être soit une forme d'exploitation, s'il y a des ressources minérales intéressantes, ou alors la gravir, l'alpinisme, et puis faire un selfie sur le sommet. Pour les Taujou...
Ou bien la protéger aussi.
Ça peut arriver aussi, oui, oui. Chez les Taujou, la montagne, elle est protectrice. C'est plutôt elle qui protège les humains. C'est un peu absurde de se dire que nous, humains, petits humains, qui vivons à ses pieds, on va être capable de la protéger. Non, la montagne, elle nous donne à manger, elle régule le climat, elle a les nuages qui s'assemblent autour d'elle. Donc la condition de santé de la montagne, des pâtures sur la montagne, est capitale pour la survie des humains eux-mêmes. Donc il y a un rapport politique ou cosmopolitique à la montagne.
Vous appartenez, Charles Stepanov, à une... famille d'anthropologues qui a largement contribué à relativiser la notion, la distinction entre nature et culture. Mais quand on vous écoute, on voit qu'il y a aussi d'autres distinctions qui sont en quelque sorte à relativiser. Par exemple, la question de la religiosité, la question donc de la représentation métaphysique du monde. Alors, chez les Taujou, dans les sociétés à chamans, par exemple, comment ça se situe? Parce que là aussi, vous évoquez... les chamans, peut-être quelques mots d'abord pour nous définir ce qu'est un chaman et puis pour nous dire qu'est-ce que ça implique sur la notion de santé, sur la notion de santé morale ou mentale également.
Oui, alors les chamans, ce sont des spécialistes rituels, c'est-à-dire des personnes qui, au sein de leur communauté, sont réputées avoir des compétences supérieures aux autres pour mener des cérémonies qui vise à régler les relations avec ces puissances qu'on évoquait, à savoir la montagne ou le ciel ou les esprits qui donnent les animaux. Donc ils interviennent dans toutes sortes de situations, quand le troupeau va pas bien, quand on a perdu, une personne a disparu. On veut la retrouver, ou un objet même a disparu, on peut solliciter un chaman, dans toutes sortes de situations où les gens estiment qu'ils ne sont pas capables eux-mêmes de résoudre le problème, qu'il y a quelque chose d'immaîtrisable. Donc ce rapport à l'immaîtrisable qui est fondamental dans ces sociétés, cette idée que l'humain ne peut pas tout, que l'humain ne maîtrise pas un certain nombre d'événements qui interviennent dans sa vie, et il y a besoin d'intermédiaires. Et ici, le chaman a ce rôle d'intermédiaire. Donc tout ça est basé sur votre question sur la santé, l'idée que l'humain a besoin de relations riches, complexes avec son environnement. Donc j'ai travaillé en ville également. Il y a des chamans qui vont s'occuper des personnes qui ont été sédentarisées de force et qui se sentent coupées d'un certain nombre de liens de protection avec la montagne parce qu'ils vivent dans un univers entièrement artificialisé. Donc là, les chamans interviennent pour rétablir sur le plan mental une connexion avec l'environnement.
Mais alors, justement, est-ce qu'il est possible de faire des liens entre les chamans et d'autres personnes qui occupent des fonctions spirituelles chez nous? Il y a deux types d'anthropologues, des individus qui soulignent les différences ou au contraire soulignent les universaux dans l'être humain. Par rapport à ça, comment vous vous situez, Charles Stepanov?
Alors, on passe par deux étapes en réalité. Hein. Comme je disais, on commence par des enquêtes ethnographiques de terrain où il s'agit de comprendre la spécificité d'une culture humaine. Et puis, à mesure qu'on élargit les enquêtes et les comparaisons par la lecture et l'analyse des enquêtes de collègues ou de nos prédécesseurs, on peut essayer de trouver des formes d'invariants à travers la variation. En l'occurrence, moi j'ai commencé par étudier les chamans en Sibérie et puis je me suis intéressé à qu'est-ce que c'est que cette fonction de l'imagination humaine qui pousse les humains à explorer ce qui semble être pour exister hein, une forme d'invisible. Qu'est-ce que c'est que cet invisible et quel rôle ça a dans les rapports à l'environnement? Alors, dans les sociétés naturalistes, matérialistes dans lesquelles on vit, ça n'a pas vraiment de sens, l'invisible. En réalité, c'est absolument prégnant, même chez nous. On est sans arrêt entouré, en train d'interagir avec l'invisible. Quand on écoute les nouvelles qu'on vient d'entendre, il est question d'êtres invisibles qui ont du pouvoir sur nous. Ce sont des lois, Ce sont des codes. Une fois qu'une loi, un code entre en vigueur, il s'impose à nous. Nous sommes tenus de les respecter. Ça, ce sont des conventions, ce sont des croyances fondées sur l'idée que l'État, la loi a un pouvoir réel. Bon, c'est une forme d'invisible qui a remplacé d'autres formes d'invisibles qui jouaient le même rôle dans notre société, à savoir des dieux et des esprits. Donc, si on généralise, on voit que le rapport à l'environnement des humains, il a une part métabolique, matérielle, d'exploitation, et toujours aussi une part qui est de l'ordre du mental, de l'affectif et de l'imaginatif. Donc, on revient à cette notion de prédateur empathique. Hein. Il y a une tension fondamentale entre la dimension métabolique et la dimension affective de nos rapports au monde, qui fait qu'on n'a jamais un rapport homogène. Il y a toujours une complexité, un tiraillement, une sorte de déchirure. Et toutes les sociétés humaines doivent y répondre, et elles le font de manière extrêmement diverse.
J'aurais aimé avoir le regard de l'anthropologue que vous êtes, Charles Stepanov, sur une nouvelle espèce qui vient d'éclore. Alors, on a parlé des animaux, on a parlé des plantes, des êtres humains. Certains considèrent que l'intelligence artificielle, les robots conversationnels sont une nouvelle espèce. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, sur le plan biologique, ça serait au biologiste de le dire, et je pense qu'il répondrait par la négative. Ce sont des artefacts créés par nous, mais qui reproduisent en fait un type de relation que nous avons établi depuis longtemps avec les animaux de compagnie. En fait, nous créons des compagnons différents de nous et en même temps alter ego qui nous permettent de développer certains types de relations. Alors, avec les animaux de compagnie, ça va être du tactile, de l'olfactif, de l'affectif. Avec l'intelligence artificielle comme animal de compagnie, si on veut, comme compagnon, on va développer des rapports beaucoup moins tactiles, évidemment, mais beaucoup plus de l'ordre de l'intellect. Mais il y a une grande leçon du développement de l'intelligence artificielle d'un point de vue anthropologique, c'est que beaucoup des traits de définition de l'humain, à savoir la capacité de conversation argumentée, le langage raisonné, la raison, le logos dans la philosophie grecque, et dont nous héritons nos définitions de l'humain, finalement, très rapidement, ils sont devenus le fait pas seulement des humains, mais aussi des machines. Alors ça nous amène à remettre en cause notre conception de qu'est-ce que c'est que l'humain. Une conversation argumentée, un développement structuré, vous pouvez en avoir de très brillants faits par ChatGPT, qui vont même être bientôt, et qui sont sans doute capables, ces machines sont capables de produire du langage rationnel de façon plus puissante et plus efficace que la plupart d'entre nous. C'est inquiétant, mais en même temps, moi je trouve ça très intéressant parce que ça nous montre qu'il faut redéfinir l'humain. C'est ce que j'essaye de faire dans ce livre, tout ce qui est de l'ordre de la diversité des affects et des attachements avec des plantes, des animaux, avec des paysages, ça, l'intelligence artificielle n'en est pas capable. Et il n'y a aucune raison qu'elle en devienne capable puisqu'elle n'a pas de corps. Donc l'intelligence artificielle est un défi aussi sur le plan théorique pour comprendre, redéfinir, nous sortir du logocentrisme, de cette définition centrée sur le logos que nous héritons des Grecs, pour comprendre que peut-être que la nature humaine, comme dit l'anthropologue Anat Singh, la nature humaine, c'est une relation interespèce.
Mais finalement, c'est quelque chose qui vous va assez bien, puisque cela prolonge la réflexion que vous avez sur les animaux et sur les plantes, Charles Stepanov.
C'est ça, c'est un travail de longue durée qui, en ce qui me concerne, dure depuis 20 ans par des enquêtes de terrain en Sibérie, mais également dans le monde occidental, pour essayer de voir tout ce qu'il y a comme traits communs et comme ruptures. En fait, on a beaucoup plus de traits communs, de savoirs écologiques aussi dans nos sociétés occidentales modernes, dans le monde rural, mais qui sont cachés, qui sont oubliés, qui sont un peu à l'écart, qui n'ont pas la parole. Et donc ça m'intéresse parce que ça montre des formes de résistance et de complexité à l'intérieur même de nos sociétés modernes.
Merci beaucoup, Charles Stepanov, de nous avoir accompagnés. Attachement, enquête sur nos liens au-delà de l'humain, aux éditions de La Découverte. C'est un livre important qui conduit à revoir, à revisiter un grand nombre de nos idées reçues sur le monde qui nous entoure.